pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, 300 millions en 2010, 1 milliard en 2013 et plus de 5 milliards en 2017. Le nombre de smartphones en circulation dans le monde ne cesse d'augmenter à une vitesse fulgurante, surtout en Asie et en Afrique. Chaque nouveau modèle crée, comment dire, une sorte d'hystérie.
Je suis là depuis mardi 6h du matin.
J'attends depuis mercredi soir à 18h.
Et prêt à passer la nuit ici?
Bah pas le choix.
Mais pour quoi exactement?
Bah pour l'iPhone.
Ouais, je passais la nuit aussi. Je l'avais déjà fait aussi pour le 5.
J'ai des amis qui viennent me ravitailler pour la nourriture. Je dors sous une tente, voilà.
J'ai le t-shirt, j'ai un blouson Apple aussi. Et hier soir, j'ai pas pu dormir quoi. C'est très très dur physiquement et mentalement quoi.
Eh oui, dur physiquement et mentalement. Nous sommes devenus téléphono-dépendants à tel point qu'il existe même une journée mondiale sans téléphone portable, l'équivalent de la journée sans tabac. Ah, comme nous les aimons, nos téléphones, ils sont presque notre deuxième cerveau. Ils nous connectent en permanence avec notre famille, nos amis, notre bureau. Ils nous permettent d'étaler nos vies à coups de selfies et d'avoir en retour des likes qui flattent notre ego. Ils sont le point d'entrée d'une encyclopédie mondiale qui nous donne accès à n'importe quelle information en quelques seconde, aide à l'orientation, musique, méditation et même gymnastique. Mais comment faisions-nous avant? Le problème, c'est que derrière ce petit objet qui ne quitte pas notre poche, il y a un univers beaucoup moins réjouissant. Univers que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Tu sais, je suis très très loin dans la société de consommation. Moi, j'essaie de me battre contre ça, ok? J'essaie de me battre contre ça, par exemple. Cette année, je me suis dit, je vais pas acheter l'iPhone 6, ok? Ouais, je suis engagé. Et tout le monde autour de moi est en train de l'acheter, j'ai dit non, je vais pas acheter l'iPhone 6. Tu sais, en plus, ça raconte les gens qui ont l'iPhone 6, hein? Et toi, ceux qui l'ont pas, à ta l'iPhone 5? Non, excuse-moi, j'ai pas vu que t'étais dans le passé. Excuse-moi, j'ai pas vu. Je me pose une question, est-ce qu'avec l'iPhone 5, on peut appeler l'iPhone 6 ou pas? Est-ce que ça marche? Ils ont réussi à nous mettre dans le crâne, Apple, que 800 euros pour un téléphone, c'est normal. Et à 800 euros, c'est possible que le téléphone, il bug.
Eh oui, ça nous fait sourire, ça fait sourire aussi mes invités dans ce studio, mais c'est vrai que le bilan, c'est un cycle de vie raccourci, des matériaux hyper polluants, un impact énergétique énorme, voilà tout ce qui se cache derrière notre dépendance à nos objets connectés. Pour en parler avec nous, plusieurs invités, Frédéric Bordage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Green IT, qui est une entreprise de conseil spécialisée dans le numérique durable et l'éco-conception de sites web, comme quoi ça existe. Et vous avez d'ailleurs organisé cette semaine la réunion annuelle des professionnels de l'éco-conception web, comme quoi c'est un sujet qui prend de l'ampleur.
Ah oui, tout à fait. Dans de grandes entreprises et un petit peu partout en France, on a maintenant des milliers de personnes qui s'y intéressent sérieusement.
Alma Dufour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne mode de production et de consommation responsable aux Amis de la Terre. Vous aussi vous intéressez de près à ce sujet. En téléphone avec nous depuis Bordeaux, Laetitia Vasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'association HOP, qui veut dire halte à l'obsolescence programmée, et deux avocats, car des actions en justice sont en cours, sont aussi avec nous dans ce studio. Émile Meunier, bonjour.
Bonjour.
Et Marie-Laure Guislain, en charge des contentieux au sein de l'association Sherpa, qui rassemble des juristes et des avocats pour protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques. Alors, Alma Dufour, on va démarrer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la quantité de matériaux nécessaires en moyenne pour fabriquer un portable?
Alors en moyenne, d'après les estimations, parce que c'est difficile d'avoir le contenu précis en fait à cause du secret industriel des téléphones portables, mais en moyenne il y a 60 métaux différents qui sont nécessaires pour fabriquer des téléphones portables. Et donc des métaux qui aujourd'hui, il y en a que 9 seulement dans un téléphone qui sont recyclés à plus de 50%, donc il faut savoir que la principale source de ces métaux reste l'extraction dans le monde, et donc dans certains endroits elle est particulièrement problématique, comme en République démocratique du Congo, d'où provient la plus de la moitié du cobalt extrait dans le monde, donc qui sert à fabriquer les batteries de ces téléphones. En Chine, pardon, avec les terres rares. Donc la Chine produit 95% des terres rares. Et donc les terres rares sont aussi absolument nécessaires au fonctionnement de nos téléphones, et notamment des écrans et de la luminosité de ces derniers. Et le lithium, qui est aussi un élément particulièrement problématique, qui lui est produit en Argentine, au Chili et bientôt en Bolivie. Et voilà, donc le lithium a une production qui nécessite d'énormes quantités d'eau, des quantités industrielles. On parle de 10 litres par seconde. On parle de bassins qui sont de la taille de 700 terrains de foot. Enfin voilà, et donc dans une région qui est particulièrement aride et touchée déjà par le changement climatique.
Et à quoi sert le lithium ?
Le lithium sert aux batteries, en fait. Les batteries rechargeables sont désormais fabriquées avec du lithium. Ça s'appelle les batteries lithium-ion qui permettent donc leur rechargement. Mais le lithium est un matériau qui s'oxyde très rapidement, d'où la durée de vie relativement réduite de ces petites batteries qui conditionnent celle aussi de nos téléphones. Puisqu'en fait, les associations de consommateurs ou les sites web disent qu'en général, la batterie d'un téléphone dure à peu près 2 ans et que c'est souvent une bonne excuse pour renouveler son modèle, en fait, que les consommateurs ne cherchent pas forcément à aller plus loin, étant donné le coût de remplacement d'une batterie qui peut valoir presque la moitié ou plus d'un bien neuf sur le marché.
Alors qu'il y a plein d'autres solutions, on va le voir dans un instant. Quel est le circuit, en gros, de l'extraction des minerais jusqu'aux déchets ?
Alors en gros, c'est des chaînes d'approvisionnement qui sont très longues et très compliquées. Il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Par exemple, pour prendre celle du cobalt, donc le cobalt que je disais qui est extrait en République démocratique du Congo, il y a à la fois des mines industrielles qui sont gérées par des grandes multinationales comme Glencore notamment, et des mines artisanales. C'est à peu près 20% de la production de cobalt qui est faite dans des mines artisanales, donc dans le sud de la RDC, dans la région du Katanga. Donc c'est dans des mines, en fait c'est des tunnels creusés par les mineurs qui sont pas soutenus, qui sont des fois à plus de 30 mètres de profondeur.
Et les mineurs au sens propre et au sens figuré, hein, parce que les mineurs qui creusent et les mineurs qui sont des enfants.
Tout à fait, alors il y a des mineurs, il y a les creuseurs, sont majoritairement des hommes adultes parce que c'est un travail très complexe, mais il y a des enfants très difficiles physiquement, c'est-à-dire qu'ils restent plus de 12 heures dans des mines, dans des conduits à 30 mètres de profondeur avec de la poussière de cobalt qui stagne et qui sont pas ventilés. Donc il faut savoir que sur ces mines-là, il y a à peu près 5 à 6 accidents par mois. Donc c'est énorme, il y a des morts tout le temps en fait. Enfin, et les morts ne sont même pas comptabilisées officiellement parce que ces mines ne sont pas légales en fait. Parce que l'État n'a pas ouvert suffisamment de zones pour l'extraction artisanale. Et donc du coup, mais en fait ferme les yeux et c'est les autorités qui rackettent en plus les mineurs qui extraient ces mines, ces matériaux dans des conditions très difficiles. Et les enfants peuvent être dans les galeries, mais ils sont souvent la plupart du temps à l'extérieur en train d'excaver les résidus de roches qui ressortent ou sur les concessions minières de ces multinationales, donc Glencore notamment, qui rejettent en fait énormément de déchets miniers. Et donc les enfants vont aussi chercher les métaux dans ces déchets et se font aussi racketter et battre par les ministres de sécurité des multinationales présentes.
Donc une fois que les métaux sont sortis de la mine, ça passe par des affineurs qui eux vendent ensuite majoritairement aux industriels en Chine.
Tout à fait. Alors déjà il faut savoir que même les maisons d'achat agréées par l'État congolais en Chine, au Congo, sont souvent chinoises, en fait, sont souvent détenues par des Chinois qui eux-mêmes vont vendre après ces métaux, donc centralisent ces métaux et les revendent à des affineurs. Donc les affineurs, fondeurs, en général, il y en a un en RDC et un en Chine pour terminer le process industriel. Et notamment sur le cobalt, il y a la UAE Company, en fait, qui est un très grand affineur et qui va fournir énormément de fabricants chinois de composants de batteries et de batteries, du coup, à la fin. Et en fait, on se retrouve que ce cobalt qui est extrait à 40% dans les mines artisanales et donc par des enfants ou des gens qui n'ont aucune condition de sécurité se retrouve dans les batteries de notamment Apple, Sony, LG, HP, énormément de multinationales que l'on connaît très bien. Et Amnesty International fait un travail avait dénoncé ces chaînes d'approvisionnement. Et depuis, les entreprises essayent de mettre en place des plans de vigilance, mais on voit que ça reste un peu des coquilles vides, en fait, parce que c'est surtout dû au modèle économique de cette chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire toute la valeur fuite vers les derniers maillons de la chaîne. Et concrètement, en RDC, si les enfants travaillent, c'est parce que les parents n'ont pas de travail, ont des accidents, sont au chômage. Les enfants n'ont pas de quoi se nourrir, en fait. Et l'école est censée être gratuite dans la loi, mais en fait, l'État n'a pas assez de fonds pour payer l'école. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y a une seule école gratuite qui fonctionne au Katanga. Et en fait, en offrant juste un repas aux enfants en plus de l'école, ça suffisait à les détourner de la mine. Donc c'est vraiment de la survie quotidienne dont on parle. Et on a appris que par exemple Glencore, qui là est une mine industrielle et qui se défendra en disant qu'elle n'emploie pas d'enfants, Glencore a détourné en fait de l'argent, a versé des pots de vin au président de RDC, en fait, pour pas payer le droit d'entrée de 500 millions de l'exploitation de la plus grande mine industrielle du Congo, ce qui fait qu'elles sont toutes liées, en fait, dans un même schéma et que ces plans de vigilance restent des coquilles vides, en fait, tant qu'il n'y a pas vraiment repensé le modèle.
Voilà, et ce n'est que pour un seul des 60 minéraux qui sont dans nos téléphones. On n'aura pas le temps de vous faire l'histoire de tous les minéraux, mais globalement, on vous en a parlé déjà il y a deux semaines, hein, dans C'est pas du vent, l'impact de ces métaux rares à l'échelle mondiale est absolument dramatique. Frédéric Bordage, ces téléphones sont, vous dites, beaucoup trop compliqués finalement. Il y a du gras technologique, on pourrait simplifier tout ça pour limiter l'impact.
Oui, tout à fait. Il y a deux démarches en fait en ce moment qui sont la première, la démarche de low-tech, qui vise finalement à concevoir des équipements électroniques qui soient centrés sur les besoins essentiels des utilisateurs, et donc plus simple techniquement, et donc plus facile à réparer, qui dure plus longtemps, etc., et qui coûte moins cher au final.
Mais on les trouve où, ces téléphones ?
Alors, c'est des démarches qui commencent, hein, on est au début de l'histoire, mais on commence vraiment à en parler sérieusement, et y a des rééditions, par exemple, d'un vieux modèle de téléphone Nokia 3210 qui était connu pour sa solidité, sa longévité, et ça a été réédité. Donc, on voit qu'il y a des petits signaux faibles dans la société sur cette démarche de low-tech et qu'il commence à y avoir une frange de la population qui est intéressée par des équipements simples qui font juste le job et surtout pas plus.
Ça, mais alors qu'en parallèle, on dépend de plus en plus finalement de ces petits appareils, on va avoir de plus en plus, on peut avoir accès aux services de santé, accès à la banque, accès à plein de choses qui se matérialisent sur nos téléphones, donc alors, c'est un peu contradictoire, non ?
Tout à fait, mais on en dépend aussi parce qu'on le veut bien, hein. Je veux dire, moi j'ai 45 ans, j'ai connu un monde sans téléphone portable, sans connexion permanente, et on n'a pas attendu d'avoir d'être scotché sur nos téléphones pour inventer la pénicilline, aller sur la Lune, découvrir que la Terre était ronde, etc. Donc je veux dire, il faut aussi, c'est à nous, utilisateurs de ces engins, de prendre de la distance et de mettre en perspective, c'est important.
Laetitia Vasseur, quel est le temps d'utilisation moyen, je veux dire, d'un téléphone ? Ça dure combien de temps quand on l'achète ? Neuf ?
Alors, la durée d'utilisation et la durée vraiment de vie du téléphone, je pense que c'est deux données différentes. Un téléphone pourrait durer certainement 5 ans, voire plus. Après, la durée d'utilisation qu'on observe, c'est plus autour de 2 ans maximum, voire jusqu'à 9 mois à Paris, selon certains sondages. Donc, il y a une différence entre le téléphone tel qu'il pourrait peut-être durer et son utilisation concrète. Et en fait, on pensait jusque-là que ça pouvait être surtout à cause du consommateur, et c'est vrai qu'il a une responsabilité importante de ne pas se jeter sur la première innovation. Et en même temps, on constate récemment que là, maintenant, on a des preuves pour dire que certaines marques, comme Apple, par exemple, ralentissent délibérément les téléphones pour vous aider quand même à racheter un nouveau. Donc finalement, c'est difficile le téléphone parce qu'il y a l'aspect vraiment matériel. Finalement, un téléphone peut fonctionner au niveau du matériel, mais si le logiciel ne suit pas, alors finalement votre téléphone va être inutilisable.
Alors c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit.
L'obsolescence programmée, finalement, c'est la volonté de raccourcir la durée de vie d'un produit pour vous en faire acheter toujours plus et des plus nouveaux. Donc, depuis 2015, c'est un délit dans la loi. C'est pour ça qu'on a attaqué Apple, notamment. Après, nous, au sein de l'association Hop, on a une acceptation plus large aussi. On dénonce toute la culture du prêt-à-jeter, des appareils qui, avant, pouvaient durer plus longtemps et qui, aujourd'hui, sont faits pour vraiment ne pas durer, pour tout simplement que vous en rachetiez toujours plus et contribuer à un modèle économique linéaire sans fin.
Et c'est pas seulement dans les téléphones, hein, puisque vous avez déposé une plainte contre les imprimantes Epson en septembre 2017. C'est vous qui avez porté cette plainte, Émile Meunier ?
Oui, au nom de l'association Hop. Donc on est sur Epson. Epson, le principal fait qu'on reproche, c'est des cartouches qui indiquent qu'elles sont vides, donc on ne peut plus imprimer. Or, si on les démonte ou que tout simplement on prend une seringue et on fait le test de voir combien d'encre il en reste parfois jusqu'à 40%.
Et, c'est énorme, 40%.
C'est énorme, surtout que le prix de l'encre ramené au litre, c'est plus de 2000 euros. C'est plus cher que le Chanel 5. Donc on se rend compte du gâchis.
C'est une valeur de comparaison très particulière.
J'ai rien contre le Chanel 5, bien évidemment. Non, mais surtout, on se rend compte du gâchis. Et si vous multipliez ça par le nombre de cartouches utilisées par le nombre de personnes sur l'ensemble de la planète, pouvez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche.
Et alors, vous avez déposé plainte aussi contre Apple avec l'association Hop récemment pour justement obsolescence programmée.
Exactement. Alors là, c'est, j'allais dire, un autre mode opératoire. C'est une mise à jour que vous téléchargez et vous êtes fortement incité à les télécharger.
Alors, on reçoit voilà, sans arrêt le message télécharger, télécharger.
Des push, ouais. Push après push. Et une fois qu'on l'a téléchargé, on se rend compte que notre modèle se met à ralentir, notamment la saisie clavier et l'utilisation des applications. Et non seulement ça ralentit, mais ça ralentit pile au moment où il y a un nouveau modèle sur le marché, en l'occurrence l'iPhone X.
C'est étonnant.
Ou l'iPhone 8. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même pour le moins une coïncidence étonnante. Et on a apporté les faits au procureur. Et le procureur, je pense, a été suffisamment convaincu, puisque en moins de 8 jours, ce qui est quand même exceptionnel quand on connaît un peu la justice, il a ouvert une enquête et l'a confiée à la DGCCRF, qui est la police de la consommation.
Donc on verra quelle suite donner à cette plainte tout à l'heure. Plainte aussi contre Samsung, et ce n'est pas la première fois, Marie-Laure Guislain, que Sherpa dépose plainte contre Samsung. Alors là, ce n'est pas pour l'obsolescence programmée, c'est plutôt pour ce dont nous parlait Alma Dufour tout à l'heure, la chaîne de production.
Des violations sur la chaîne de production, effectivement. En fait, ce qu'on dénonce dans cette plainte, c'est un écart qui nous paraît inacceptable entre des engagements éthiques de Samsung, qui se dit vouloir être une des entreprises les plus éthiques au monde, et la réalité qui apparemment est tout autre dans les usines en Chine et en Corée du Sud, puisqu'on a la chance d'avoir pu verser à la plainte à nouveau des rapports d'une ONG qui s'infiltre directement dans les usines.
Une ONG chinoise courageuse.
Voilà, China Labor Watch, et qui montre que non seulement Samsung ne respecterait pas ses engagements éthiques, mais aussi la loi chinoise, puisqu'on est en présence de mineurs de moins de 16 ans, ce qui est interdit par la loi chinoise. Il y a des horaires de travail excessifs, des équipements qui ne sont pas corrects par rapport à la sécurité. Donc nous, ce qu'on essaye de dénoncer dans cette plainte, c'est vraiment un rapport de force déséquilibré entre les multinationales, toutes celles qu'on vient de citer aujourd'hui, qui, grâce à leurs engagements éthiques, maintiennent une compétitivité énorme, puisque le consommateur aujourd'hui est très regardant sur les conditions éthiques de fabrication du produit. Et par ailleurs, un manque de moyens flagrant de l'ouvrier ou du consommateur pour pouvoir agir lorsqu'il observe un non-respect de ses engagements. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire à travers cette plainte pour pratiques commerciales trompeuses. Reconnaître que les engagements éthiques sont des pratiques commerciales permettrait de donner aux consommateurs le moyen d'agir et de dire voilà, ces pratiques sont commerciales et en plus elles ne sont pas respectées, donc j'ai été trompée.
Alors on parlera dans la deuxième partie de l'émission après le flash d'info dans un instant de la suite à donner à ces plaintes, mais ce n'est pas la première fois que vous portez plainte. Vous avez déjà porté plainte en 2013, en 2015 contre Samsung, ça n'avait pas donné grand chose.
La plainte avait été classée sans suite à l'époque dans un contexte politique de surprotection de multinationales en janvier 2014. On espère que le contexte politique est un peu différent aujourd'hui, notamment grâce à l'adoption de la loi historique française en mars 2017, dont vraiment nous nous félicitons, sur le devoir de vigilance des multinationales qui demande à ces maisons mères d'être vigilantes sur toute leur chaîne de production. Par ailleurs, il nous semble impossible aujourd'hui pour Samsung de soutenir ce qu'elle soutenait à l'époque, c'est-à-dire que ses engagements ne sont pas destinés aux consommateurs, ne sont pas des arguments de vente. On est en 2018, il nous paraît impossible de soutenir la même chose aujourd'hui. Et enfin, on espère que le parquet sera aussi plus enclin à faire une enquête approfondie, ce qu'on constate malheureusement dans nombre de nos dossiers au champ Vinci, Samsung, c'est que le parquet, par rapport à un juge d'instruction, donc chose bien différente, n'est pas toujours à même d'enquêter de façon approfondie lorsqu'il y a des intérêts économiques aussi grands en jeu dans des dossiers comme cela. Donc on espère que cette plainte va être accueillie autrement par le parquet, et sinon une constitution de partie civile devant un juge d'instruction pourra être faite.
Et c'est pour ça que vous vous battez, je dis vous, au sens large, on en parlera dans un instant, pour qu'il y ait justement des négociations au niveau international pour qu'au sein de l'ONU, il y ait un traité qui demande aux multinationales d'être responsables face à leurs actions. On en parle dans un instant. Donc vous en savez désormais plus sur la face cachée de votre téléphone portable. Maintenant, que peut-on faire pour améliorer la situation, diminuer l'impact environnemental et social de cet objet qui ne quitte pas notre poche? Nous en parlons avec nos invités juste après une petite pause musicale.
Thank you. identité. Et bien souvent, dès le lendemain, cet objet, on le rejette. Il n'était qu'un gadget. Trop vite consommé, trop vite consumé.
De l'impact de nos téléphones portables aujourd'hui dans C'est pas du vent, car désormais les constructeurs comme Samsung et Apple sont attaqués en justice pour obsolescence programmée ou fabrication dans des conditions qui ne respectent pas les droits humains. Et si ce petit bijou technologique dont nous ne pouvons plus nous passer ne pèse pas plus de 100 grammes, il est gourmand en énergie et en matériaux rares ou toxiques. On le jette ? Impossible, nous en sommes devenus dépendants. Alors on fait quoi ? Nous en parlons avec nos invités. Frédéric Bordage, vous êtes fondateur de Green IT. Pour vous, il faut penser à l'impact global pour savoir où agir efficacement. Alors quelles sont les priorités ?
Simplement de ne rien faire, d'attendre avant de changer son équipement, donc de l'utiliser le plus longtemps possible finalement.
Oui, mais si ça marche plus, si c'est trop lent,
et
ça nous
énerve. De favoriser le réemploi, d'aller voir des réparateurs, de favoriser le marché de l'occasion, etc. Et donc à un moment, on atteint ses limites en tant que consommateur, mais en tout cas, il faut déjà avoir cette démarche-là.
Éviter de reconsommer pour remettre dans le circuit un nouvel objet.
Voilà, éviter de sombrer, éviter de se faire avoir par le marketing ou quand un opérateur vous dit au bout de 2 ans, bah, si tu renouvelles ton forfait, je te donne un téléphone à 1 euro, quoi. Donc il faut être conscient des impacts environnementaux, sociaux qu'on a évoqués dans la première partie de l'émission et ne pas céder à ça. Ça, c'est pour le grand public. Après, pour finalement, nos téléphones, nos ordinateurs, tous nos équipements électroniques, on les change, pas parce qu'ils ne fonctionnent plus la plupart du temps, mais parce qu'ils rament. Et ils rament parce que les logiciels qui s'exécutent dessus sont trop gras, ils deviennent obèses. On empile du gras numérique dessus. Et donc, il y a une vraie responsabilité au-delà de l'utilisateur, des éditeurs, des concepteurs des services qu'on utilise. Et donc aujourd'hui, on a une démarche qui s'appelle la conception responsable de services numériques, qui vise au travers notamment de l'éco-conception pour la partie environnementale, mais aussi de l'accessibilité numérique pour inclure plus de personnes, des non-voyants par exemple. On a une démarche qui permet de réduire significativement l'empreinte environnementale de le gras numérique, de façon à pouvoir utiliser les services plus longtemps sur des vieux téléphones ou des vieux smartphones.
Alors vous dites qu'on peut vraiment diminuer de presque 100%, alors ça paraît assez incroyable, mais l'impact d'un site web, comment vous faites ?
Alors
simplement, hein, pour qu'on comprenne, sans rentrer trop dans des détails techniques.
Tout à fait, en fait c'est même des facteurs 2 à 100. Donc on divise par 2 ou par même un facteur 100, on divise par 100 l'impact associé. Et donc en fait finalement pour les gens qui connaissent un peu Pierre Rabhi, quelque part on applique la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. au numérique. Mais il s'agit de se concentrer sur l'essentiel, d'avoir une démarche de sobriété, de frugalité, d'abord sur les fonctionnalités. Et donc, plutôt que d'avoir des logiciels ou des services en ligne qui sont des usines à gaz, qui font des tas de choses, mais pas l'essentiel, on se concentre sur l'essentiel.
Oui, mais alors moi, je suis une entreprise, je crée mon site internet, j'ai envie qu'on me voit, j'ai envie qu'il y ait des vidéos, qu'il y ait de l'image, qu'il y ait du son, que les gens viennent sur mon site. Donc, est-ce que c'est compatible avec ce que vous venez de dire ?
Alors, en fait, pour tout ce qui est transactionnel, c'est-à-dire un service, l'utilisateur, nous, commun des mortels, la plupart du temps, quand on se connecte quelque part, c'est pour un service concret. C'est pas forcément pour de l'image, mais c'est plutôt pour avoir l'horaire d'un train, pour réserver un billet de spectacle, pour lire un article. Donc, c'est pour un acte métier concret, en fait. Et dans toute cette situation, qui est le gros de nos usages connectés quotidiens, on peut vraiment enlever du gras, il y a du gras partout.
Mais cela dit, on sait bien cela sur RFI, puisque comme on a des auditeurs qui se connectent de par le monde, et dans des zones où la connexion n'est pas toujours terrible, on a créé un site low-tech, comme vous diriez, qui lui aussi est moins gourmand en énergie, voilà. En images, en tout ça.
Dans ces pays-là, par exemple, avec un simple SMS, on sauve des vies, ça s'appelle M-Pedigree, et on envoie un numéro qui assure une boîte de médicaments par SMS, un serveur vous dit si le médicament est contrefait ou pas et vous sauvez des vies. Donc si on arrive à sauver des vies en Afrique avec le peu de technologie présente par rapport à nos pays occidentaux, il y a certainement des leçons à tirer en fait de ces pays émergents dans une démarche low-tech, djougad, frugale, et de les appliquer ici en Occident, en Europe et en France, parce qu'en fait c'est ce que demandent les utilisateurs en France, ils veulent des services simples qui fonctionnent et c'est tout.
Mais un peu dans le monde entier, finalement, non ?
Dans le monde entier, tout à fait, oui.
Et alors, vous avez organisé cette semaine la réunion annuelle des professionnels de l'éco-conception. Ça consiste en quoi et ça donne quoi ?
Prenons l'exemple du site web, pour continuer dessus. Ça consiste à évaluer les impacts environnementaux associés à un site web existant, et ensuite d'identifier les principales sources d'impact et de les réduire. Donc c'est un collectif d'une à peu près 70 à 80 organisations qui discutent entre elles pour mettre en place des outils opérationnels, donc des référentiels de bonnes pratiques, des services en ligne qui vont évaluer automatiquement le poids d'une page web, par exemple comme ecoindex.fr, et qui vont vous donner une idée d'où sont les impacts, et donc vous allez pouvoir les corriger en tant que technicien. Je ne vais pas rentrer dans les détails
informatiques.
Non, mais
ça pénètre du côté des entreprises, il y en a de plus en plus que ça intéresse.
Bien sûr, aujourd'hui,
quel est leur intérêt ?
Aujourd'hui, on a des très grandes entreprises, par exemple le 10e plus gros site web français, je ne sais pas si je peux citer une marque, donc pagejaune.fr, c'est un annuaire, et donc en 2014, vous voyez, il y a déjà 3 ou 4 ans, a éco-conçu la nouvelle édition donc, de ce service, parce que ça permet de délivrer un meilleur service aux utilisateurs, ça coûte moins cher, donc on fait plus de marge en tant qu'entreprise, avec des utilisateurs plus satisfaits, et en plus on réduit les impacts environnementaux. Et dans la démarche, ils ont en plus fait de l'accessibilité numérique pour s'ouvrir à 7 à 8 millions de Français et de Françaises qui ont notamment des déficiences visuelles. Donc c'est génial, on inclut plus de personnes, on a moins d'impacts environnementaux, et on gagne plus d'argent.
Donc c'est possible. Alma Dufour, avec les Amis de la Terre, quels sont vos moyens d'action pour limiter l'impact de nos objets ? Vous faites quoi ? Des campagnes de sensibilisation ?
Oui, aux Amis de la Terre, on est à la fois, donc on fait du plaidoyer parce qu'on insiste beaucoup sur l'importance de la régulation. Notamment là, du coup, on a commencé cette émission sur les smartphones. En fait, faut savoir que au niveau européen, il y a une directive qui s'appelle la directive cadre éco-conception ou éco-design en anglais, qui en fait impose des standards environnementaux aux produits circulant sur le marché unique. Donc, elle commence à être utilisée pour réglementer la conception des produits et donc leur réparabilité, notamment leur durée de vie. Il faut savoir que les smartphones aujourd'hui ne sont pas encore inclus dans cette réglementation. Donc déjà, ça c'est une première chose. Nous, on demande l'inclusion rapide des smartphones dans la régulation. En fait, ils nous disent que de la justification de la commission, c'est que c'est un marché qui va trop vite, justement, qui évolue trop pour être réglementé, que ça prend 4 ans à poser un règlement. Mais du coup, nous, on pense que c'est une mauvaise interprétation du rôle de cette réglementation qui devrait en fait fixer à des horizons temporels définis un cadre et un guide pour les innovations, justement, pour pas qu'elles aillent dans tous les sens. Et donc, ça pourrait inclure notamment les logiciels et les systèmes d'exploitation et la réversibilité des mises à jour des systèmes d'exploitation, des choses qui peuvent être incluses dans cette norme et obligées, en fait, parce que dans un cas de concurrence internationale et de ces multinationales-là, de l'électronique, en fait, je pense que les engagements volontaires sont difficiles à mettre en œuvre parce qu'ils sont vraiment en concurrence très féroce les uns avec les autres et aucun fera le premier pas vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est important que sur le marché unique européen, il y a qu'il y ait des réglementations strictes à l'entrée de ces produits. Et donc, nous, on défend cette approche. Et au niveau français, ce qui peut être vrai en France aussi, c'est de protéger le secteur du réemploi, le secteur de la réparation indépendante, notamment, plutôt à travers du droit de la concurrence pour éviter les monopoles. Notamment, Apple est une des marques qui a créé le plus de monopoles sur tout le système de son produit et donc sur la réparation aussi. Elle ne fournit pas de pièces détachées aux réparateurs qui ne sont pas agréés. Elle ne fournit pas de documents techniques aux réparateurs qui ne sont pas agréés. Mais ce qui fait qu'en fait, chez les réparateurs agréés, on prescrit des types de pannes, des changements de pièces qui coûtent 500 euros. Donc ça pousse au renouvellement. Donc nous, on demande aussi que les pouvoirs publics français protègent les secteurs indépendants, protègent le réemploi de ces pratiques monopolistiques. Et ça, ça peut être fait à l'échelle du territoire national aussi.
Et limite l'export aussi de déchets électroniques qui sont souvent cachés dans des containers et qui se déversent en grand nombre vers l'Afrique. Alors on a joint l'ONG ENDA qui fait un travail formidable, mais il ne pouvait pas être en ligne avec nous aujourd'hui, un travail formidable pour recycler, récupérer les ordinateurs et les téléphones usagés et les remettre dans le circuit. C'est un moyen de réduire la fracture numérique, ça marche bien, mais il y a plein d'initiatives comme ça en Afrique, mais c'est quand même difficile parce qu'il leur tombe sur le dos des tonnes et des tonnes de déchets électroniques. Laetitia Vasseur, c'est aussi pour ça que vous vous battez, parce que finalement, quand on se bat contre l'obsolescence programmée, on limite le nombre de déchets.
Oui, tout à fait. L'association HOP, Alter Obsolescence Programmée, vise vraiment à limiter l'obsolescence programmée dans le cadre d'un projet plus global qui est à la fois de protéger les citoyens de cette obsolescence, les intérêts des consommateurs, mais aussi de protéger l'environnement parce que, comme on l'a dit, ça fait beaucoup à la fois de pollution en amont pour toute cette extraction de terres, de minerais, etc. et puis beaucoup de déchets en aval. Par exemple, on estime sur les équipements électriques et électroniques qu'un Français, en moyenne, génère plus de 22 kilos de ce type de déchets par an. Donc on voit que c'est vraiment considérable et cette extension des déchets qui pour beaucoup n'est pas vraiment complètement recyclée, c'est un grand défi et aujourd'hui cette obsolescence n'est plus possible, notamment pour vraiment des raisons écologiques.
C'est énorme, 22 kilos par an. Vous savez comment ça se décompose ? Émile Meunier a l'air de savoir décomposer ce chiffre.
Non, parce que j'ai lu aussi cette étude, c'est principalement le gros électroménager qui pèse lourd.
Ah oui, quand on se débarrasse de sa machine à laver ou de son réfrigérateur.
Ouais.
Frédéric Bordage.
Vous avez sur les équipements électroniques, vous avez à peu près 4 à 6 kilos par Français par an. Donc là, c'est vraiment smartphone, téléphone, ordinateur portable, etc.
Oui, ce qui est énorme. Hein.
C'est énorme, en fait. Multiplié par 70 millions de Français.
Et donc, Laetitia Vasseur, vous battez pour limiter cela et vous appuyez sur la loi, hein, puisque la France a voté une loi contre l'obsolescence programmée. C'est à souligner parce qu'il n'y a pas tant de pays que ça qui l'ont fait.
Non, la France est vraiment pionnière en la matière grâce à cette loi, grâce aussi à une garantie qui s'applique en France de 2 ans, qui est une garantie légale de conformité, qui est gratuite et dont il faut bien se souvenir quand on achète un produit. Tous nos produits sont garantis 2 ans par la loi et également sur les pièces détachées, mais il y a encore du travail à faire. C'est pour ça qu'on fait aussi un travail d'influence et de lobbying citoyen auprès des institutions publiques. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est de rassembler le plus possible de citoyens pour avoir plus de poids auprès des institutions quand on essaye d'influencer les lois. En ce moment, il y a la feuille de route économie circulaire, donc c'est un point important. Et puis aussi d'influencer, d'engager les industriels, soit par des actions en justice, qui est un peu le côté bâton, mais aussi le côté carotte, entre guillemets, en essayant de montrer, de promouvoir les bonnes alternatives, parce qu'on veut montrer qu'il y a des solutions et il faut se tourner vers ça pour renverser le paradigme.
Alors justement, que peut-on faire chacun concrètement à notre niveau au quotidien ? On en parle juste après une petite pause musicale.
Selling time, selling happiness, selling power, selling water. Selling kisses, selling doubts, selling certainty, selling comfort, selling emotions, selling youth, selling motion, selling lies, selling life, selling entertainment, selling silence, selling games, selling strategic marketing, selling strategic marketing. If you don't buy, you die. 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 Selling dreams, selling beliefs by numbers, selling security.
necessity, selling simplicity, selling intimacy, selling identity, selling love, selling what you call beauty, selling collateral damage, selling eternity, selling injustice, selling human history, selling trash, light, darkness, selling past, present, future.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de la face cachée de nos téléphones portables et autres objets numériques qui ont un impact environnemental et social déplorable. Nous avons vu ce qui peut être fait techniquement par des connaisseurs comme vous, Frédéric Bordage, et les professionnels de l'éco-conception numérique. Nous avons vu ce que les ONG peuvent faire. Elles se mobilisent pour porter plainte en justice. Mais à notre niveau de consommateur, quels sont les recommandations que l'on peut faire, comment pouvons-nous agir nous au quotidien? Il y a beaucoup d'ateliers et de plateformes d'aide à la réparation par exemple qui sont en train d'émerger un peu partout comme iFixit. Bonjour Claire Rapp.
Bonjour Cécile, bonjour à tout le monde.
Vous animez notamment la communauté d'iFixit, alors expliquez-nous le principe de votre plateforme.
Alors, iFixit en gros c'est le tutoriel de réparation en ligne gratuit qui est accessible à tous et modifiable par tous. Et cette plateforme a pour mission, a pour but de donner aux gens les moyens de réparer leurs affaires et ainsi de faire des économies d'un côté, mais aussi de réduire les déchets électroniques.
Alors ça prend de l'ampleur, il y a de plus en plus de membres dans votre communauté.
Oui, exact. Alors on a démarré en 2003 aux États-Unis et nous sommes présents en Europe depuis 2013. Actuellement, nous proposons notre plateforme dans 13 langues. Les gens ont accès à plus de 35 000 tutoriels, 110 000 solutions, donc des gens qui ont posé une question sur un sujet très précis, sur un problème précis de réparation et qui ont reçu une réponse. Voilà, donc toute cette plateforme est financée par la vente de pièces détachées électroniques pour la plus grande partie et d'outils spécialisés pour ces réparations.
Alors qu'est-ce que l'on peut apprendre, par exemple, concrètement sur votre plateforme ?
D'un côté, on peut s'informer pour savoir quels appareils sont faciles à réparer, donc qui veut acheter un téléphone peut aller consulter chez nous une liste où nous avons jugé la réparabilité de quasiment tous les portables sur le marché actuel. Donc ça va de 10 pour le Fairphone, qui est le mieux, à 0 ou 1 pour le HTC One. Donc d'un côté, les gens peuvent s'informer pour savoir qu'est-ce qui est facile à réparer. Et après, si jamais l'appareil s'est vraiment cassé, on peut chercher sur le site des tas d'informations utiles à la réparation, qu'il s'agit du tutoriel ou bien quelles pièces détachées on peut acheter, les outils. Et après, il y a évidemment le forum de questions où les gens peuvent poser leurs questions si jamais ils n'ont pas trouvé l'information qui leur servait sur le contenu qui existe déjà.
Voilà, et on peut apprendre les uns des autres. Ça s'appelle iFixit. Merci Claire Rapp pour ces informations. Émile Meunier, ça c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas que la justice, hein. Il y a aussi voilà, se prendre en main, savoir
la justice, gérer. La justice est primordiale. La preuve, c'est que ça peut faire bouger les choses. Mais effectivement, quand on parle de qu'est-ce qu'un citoyen peut faire, moi, je pense que la réparation, c'est un très beau chemin, en fait. C'est même une belle aventure parce que déjà, on retrouve un peu le goût des choses, de les réparer. Il y a une sensation quand même de satisfaction. Mais surtout, c'est des emplois locaux. Et là, souvent, c'est aussi ce langage qu'il faut savoir parler. C'est-à-dire, économiquement, c'est intéressant pour un pays d'axer une politique sur la réparation. Puisque, évidemment, on répare en France, sur nos territoires. C'est des savoir-faire qui se transmettent. Et le consommateur doit évidemment avoir le réflexe réparation plutôt que le réflexe rachat, mais malheureusement en France, la réparation c'est encore trop cher. C'est-à-dire que trop souvent, ça revient moins cher d'acheter neuf que de réparer. Pourquoi ? Parce que peu de pièces détachées disponibles, les biens sont construits comme disait iFixit de façon à que ce soit difficile de réparer. Et il y a des leviers d'action pour les pouvoirs publics, et je pense qu'une belle politique là pour les prochaines années à venir, c'est vraiment mettre le paquet pour réduire le coût de la réparation. On pense à la fiscalité, on pense aussi à inciter les entreprises à rendre leurs biens plus réparables.
Marie-Laure Guislain.
Oui, là on est concentré aussi sur l'impact environnemental que peuvent avoir nos déchets. C'est vrai qu'on oublie parfois l'impact social.
On en parle dans cette émission.
Et justement, le consommateur peut aussi avoir un rôle qui lui paraît peut-être plus indirect, mais c'est grâce par exemple à la mobilisation des consommateurs aujourd'hui, notamment à travers des pétitions, que la loi sur le devoir de vigilance qui oblige les multinationales à être responsables sur leur chaîne de production et notamment à ne pas violer les droits fondamentaux, c'est grâce à ces pétitions et à la mobilisation citoyenne et consommateurs qu'elle a été adoptée. Aujourd'hui, c'est important pour nous à Sherpa, nous luttons contre l'impunité des multinationales de façon générale et donc que ça soit sur l'électronique ou autre. Il y a cette loi en France qui permet de demander aux multinationales d'être vigilantes sur leur chaîne de production, donc de ne pas, par exemple, employer des enfants dans leurs usines, de ne pas violer les droits syndicaux ou autres fondamentaux des travailleurs. Mais, par exemple, notre plainte Samsung le rappelle, toutes les multinationales ne sont pas concernées aujourd'hui, puisque cette loi...
Il y a des seuils.
Il y a des seuils, en fait, d'entreprises en France, donc 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, mais le siège doit être en France. Donc la maison mère coréenne, par exemple, Samsung, ne serait pas concernée. Il y a un traité international qui devrait imiter cette loi française et qui est en cours de négociation à l'ONU.
Il y a eu une troisième session en octobre dernier de discussion.
Exactement.
Alors ça avance.
Et ça avance, mais malheureusement, les États-Unis aujourd'hui veulent bloquer le processus en disant que le mandat est fini, qu'il y avait un mandat pour 3 ans. Donc on encourage vraiment le consommateur à se rendre compte en fait de tout ce qui se passe vraiment au niveau régulation internationale qui a un impact direct sur lui et on encourage la France à se mobiliser davantage dans ces négociations pour que toutes les multinationales soient vigilantes sur la chaîne de production et que le consommateur ne soit plus malgré lui responsable de violations graves de droits humains dans la chaîne de production.
L'objectif étant d'adopter le premier texte d'un traité sur l'obligation de respect des droits humains par les multinationales, donc ça se passera, on l'espère, au niveau des Nations Unies. Au niveau juridique, Émile Meunier, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre plainte contre Apple ?
Donc là, la DGCCRF est saisie. Comme je le disais, c'est l'équivalent d'une police de la consommation. Et il va mener une enquête. Les services vont mener une enquête. Donc ça va mettre un peu de temps, quelques mois. L'association, moi-même et puis d'autres apporteront évidemment tous les éléments qu'on a en notre possession.
Peut témoigner d'ailleurs.
Oui, il y a eu plus, j'allais le dire, il y a eu plus de 8000 témoignages sur un questionnaire en ligne sur le site de l'association. Et effectivement, déjà, les témoignages corroborent ce qu'on dit dans la plainte, mais à 80%. Et deux, c'est des personnes concrètes qui sont prêtes à arriver avec leur téléphone, à DGCCRF, faire des tests, etc.
D'ailleurs,
j'ai
fourni
les fichiers.
Ça a fait un peu peur au juge quand vous êtes arrivé. Il a dit, mais ça va pas être possible. Le temps de la justice ne permettra pas d'entendre 8000 personnes.
Non, le procureur m'a gentiment fait remarquer, mais évidemment sans m'influencer. C'est-à-dire, attendez, si vous arrivez avec 8000 plaignants, ça fait 8000 personnes interrogées. J'ai tout de suite rassuré. Je lui ai dit qu'on n'en était pas là pour l'instant. C'était surtout des témoignages qu'on apportait aux enquêteurs pour leur permettre, évidemment, de faire des tests et des mesures plus approfondies d'enquête.
Donc on attend la suite, comme la plainte contre Samsung.
Exactement.
Voilà, ça va prendre du temps, c'est le temps de la justice. Frédéric Bordage, est-ce qu'il y a vous disiez, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées pour donc limiter leur impact. Vous avez notamment une initiative dans le sud de la France, je crois, avec l'ADEME, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie.
Oui, tout à fait. Un des points importants, c'est qu'on commence à faire le lien entre le logiciel et le matériel. Et donc, quand vous prenez des logiciels, du matériel, ça donne un service numérique. Et dans le sud de la France, on mène une campagne sur 3 ans pour accompagner 30 PME du numérique, donc 30 entreprises spécialisées qui conçoivent des services numériques. Donc ce sont des services numériques avec des capteurs, par exemple, ou ça peut être simplement des sites web. Et on les accompagne pour leur faire prendre conscience des leviers qu'elles ont pour réduire les impacts environnementaux. Et ça porte ses fruits, c'est-à-dire qu'on arrive à faire pratiquement disparaître des sites web existants au profit de simples emails. Donc on est vraiment la démarche de low-tech que j'évoquais précédemment, elle n'est pas réservée à des pays émergents. On commence à découvrir que ça peut être un argument différenciateur de l'offre d'une entreprise. Et juste pour boucler sur la partie matérielle, je pense qu'il y a une entreprise qui n'a pas été citée et qui est intéressante, notamment sur l'exemple du téléphone, du smartphone qu'on prend depuis le début de l'émission, c'est Fairphone. Aujourd'hui, on a quand même des fabricants qui proposent des démarches qui se distinguent. Enfin, on a un fabricant en fait dans le monde, Fairphone, qui propose une démarche qui commence à se distinguer notablement sur la performance environnementale et sociale. donc qui nous réunit tous hein, autour des micros, et notamment sur la partie environnementale, il démontre qu'il est possible de concevoir, même quand on est une start-up, hein, de concevoir un téléphone qui se répare et se démonte très facilement, sans tournevis, que n'importe qui peut changer le capteur photo, la batterie, sans aucune difficulté. Si eux y arrivent, alors pourquoi les gros comme Apple, Samsung, etc. n'y arrivent pas ?
C'est une question de business model, on va dire, plus que de capacité, à mon avis. Marie-Laure Guislain, vous vouliez dire ?
Je voulais juste dire qu'il faut aussi donner les moyens aux consommateurs et à l'ouvrier qui souffre de problèmes sociaux de pouvoir dénoncer ça. Et aujourd'hui, il y a un problème de poursuite bâillon, c'est-à-dire que toutes les entreprises qu'on a citées aujourd'hui, souvent les multinationales, attaquent les communautés qui essayent de dénoncer des problèmes sociaux, les ONG qui les représentent ou un blogueur consommateur qui va essayer de dénoncer des choses. Il va se retrouver en fait en justice, il va être, c'est-à-dire que la victime va être criminalisée, un renversement en fait de rôle, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des poursuites bâillons qui sont très communes. On a monté un collectif avec Sherpa qui s'appelle On ne se taira pas pour essayer de proposer justement des réformes qui existent par exemple au Québec pour essayer de faire en sorte que la loi protège la liberté d'expression et qu'on puisse encore dénoncer justement les violations environnementales et sociales qui pourraient avoir lieu sur la chaîne de production. Pas plus tard que le 25 et 26, Sherpa, Mediapart, React étaient attaqués par Socfi, une filiale de Bolloré qui est souvent dans les tribunaux pour ce type d'affaires, donc Bolloré qui attaque souvent en diffamation.
Oui, RFI a eu quelques problèmes d'ailleurs aussi avec
voilà,
ce groupe.
Il y a une tribune publiée à ce sujet sur les différentes personnes attaquées par l'entreprise Bolloré. Et voilà, c'est vraiment l'exemple typique d'une poursuite bâillon. Parce que les journaux attaqués et les ONG, donc Sherpa et React, voulaient dénoncer un problème d'accaparement de terres, notamment au Cameroun. Donc voilà, pour que le consommateur et les ONG puissent agir aussi, il faut leur laisser la possibilité de s'exprimer sans être attaqué en retour.
Alma Dufour.
Je pense que l'information du consommateur, elle est cruciale, à la fois sur le social, sur l'environnemental et sur la durée de vie des produits. Et aujourd'hui, c'est une demande qui relie Hop et les Amis de la Terre, par exemple. Enfin, aujourd'hui, la durée de vie des produits n'est pas affichée. Les constructeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les standards permettant d'afficher, alors qu'elle est demandée par 92% des citoyens européens, d'après les études européennes. Pareil, le coût des pièces détachées n'est pas affiché, leur durée de disponibilité non plus. Donc, on a des vrais enjeux et les distributeurs et les constructeurs ont tendance à se retrancher derrière ça en disant que c'est le consommateur qui veut de la nouveauté, mais il y a aussi, je pense, si le consommateur était mieux informé, les choses changeraient énormément. Et voilà, et on ne sait pas non plus aussi sur la répartition de la chaîne de valeur économique, il y a un vrai souci d'information aussi. Nous, en faisant des recherches, on découvre en fait qui est payé le long de la chaîne et comment on peut faire appliquer le respect des droits sociaux et environnementaux si la valeur n'est pas mieux redistribuée le long de la chaîne. C'est absolument impossible parce qu'une extraction minière, ça crée des dégâts environnementaux, ça crée des pollutions, c'est évident, c'est obligatoire en fait. Et donc, ça a vraiment un coût. Et voilà, on a découvert que par exemple, sur les iPhone en 2016, à peu près plus de 100 euros revenaient aux actionnaires. Quand c'est 7 euros pour la main-d'œuvre d'assemblage, enfin, vous vous rendez compte le décalage, et je pense que c'est important que les gens sachent ce genre de choses.
Bah écoutez, j'espère qu'à partir de cette émission, en tout cas, nous ne regarderons plus nos téléphones de la même manière. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous réécouter ou partager cette émission sur l'application Pure Radio et sur le site internet de RFI, rubrique émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.